France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, femmes en science, pourquoi si peu ? Tout le monde sait qu'il existe aujourd'hui environ 8 milliards d'êtres humains dont la moitié sont des femmes. Tout le monde sait également que, en principe, les savoirs n'ont pas de sexe, ils n'ont pas non plus de genre. Pourtant, peu de femmes s'engagent dans les carrières scientifiques. Comment expliquer cette sous-représentation, notamment dans le champ des mathématiques, de la physique et des sciences de l'ingénieur ? Provient-elle de différences naturelles ? De la puissance des stéréotypes ? D'une affaire de goût et d'appétence qui déterminerait d'autres choix de la part des femmes ? Ces explications sont fréquemment avancées. Mais se pourrait-il que par l'effet de quelque ironie, elles soient elles-mêmes la conséquence de préjugés culturels ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Clodilde Policard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chimiste, directrice des études sciences à l'École normale supérieure, et vous vous intéressez à ces questions de présence ou non des femmes dans les champs scientifiques. J'ai une première question. Que veut dire directrice des études sciences ?
Bien, à l'ENS, le système est organisé pour qu'il y ait une direction adjointe qui s'occupe des aspects recherche et une direction des études qui s'occupe des questions d'enseignement et des interactions avec les étudiants. Nos cursus sont très très souples et donc parfois les étudiants ont besoin de venir nous questionner pour s'orienter vers tel ou tel cursus interdisciplinaire. Et donc il y a besoin de personnes qui vont gérer ces questions. Et donc il y a un directeur des études lettres actuellement, lettres et sciences humaines, et moi-même qui suis directrice des études sciences.
Quel a été sommairement votre parcours très long ?
Alors moi je suis passée par les classes préparatoires. À l'époque, ça s'appelait P et P'. Donc j'étais en classe de maths sup, puis en classe de maths P'. J'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan, donc qui aujourd'hui s'appelle l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Où j'ai suivi un cursus. Donc là, j'avais le choix entre différentes disciplines. J'étais en rentelle que je pouvais choisir physique appliquée ou chimie. Et parce que j'avais eu des enseignements et un professeur très convaincant en chimie en classe de spéciale, j'ai choisi la chimie.
Il y avait des disciplines réparties par les classements ?
Oui, mais moi, j'étais en rentelle que je pouvais...
Mais c'est bizarre, ça, non ?
Il y avait tant de places. Alors, ça a disparu, mais à l'époque, il y avait, je crois que c'était 15 places en physique, 15 places en chimie et 15 places en physique appliquée. Ou 10, peut-être c'était que 10 et 10, j'avoue que je ne me souviens pas exactement. Et on choisissait en fonction de son rang. Donc, selon le classement qu'on avait, on pouvait ou non accéder à la discipline qu'on souhaitait. Ça a disparu, hein, ça n'existait pas à l'ENS Ulm, déjà à l'époque, quand moi je suis rentrée. Mais ça a disparu il y a quelques années à l'ENS Paris-Saclay. Maintenant, le choix est libre. On rentre en physique-chimie et on peut choisir la physique ou la chimie indépendamment de son classement.
Et quel est votre sujet principal d'étude en chimie, Clotilde Policard ?
Alors moi, je m'intéresse à la chimie du vivant, et plus spécifiquement, je m'intéresse aux systèmes métalliques qui sont présents dans les systèmes vivants. Donc, par exemple, même si moi je travaille pas là-dessus, mais dans l'hémoglobine qui nous permet de respirer, il y a un métal qui est au centre d'une molécule qui s'appelle qui est une porphyrine ou un M, et qui va interagir ou transporter. Interagir de manière réversible avec le dioxygène pour le récupérer au poumon et le libérer au niveau des muscles. Et c'est intéressant de comprendre comment fonctionne ce centre métallique. Donc moi, je ne travaille pas sur cette protéine-là, mais je travaille sur des systèmes qui protègent nos cellules contre le stress oxydant. Et mon métal de prédilection, c'est le manganèse.
Très bien. Est-ce que dans vos travaux, vous avez eu affaire à des colloïdes ?
Pas directement, mais on est en train de s'intéresser à l'idée de faire des systèmes métalliques agrégés.
Et vous savez pourquoi je vous ai posé la question ?
Je crois que je devine.
C'est parce que Clodilde Policard a pour anagramme ce trip colloïdal.
Ok, très bien.
Vous pourrez réfléchir là-dessus. Okay. Alors, si vous êtes intéressé à la question des femmes en sciences, est-ce que c'est parce que vous-même, dans votre parcours, vous avez été encouragé ou découragé peut-être, ou bien est-ce que c'est le résultat d'observations que vous avez pu faire autour de vous?
Alors, faut que je réponde à plusieurs niveaux, je pense. D'abord, mon domaine est la chimie. En plus, la chimie à l'interface avec la biologie. Et même si je m'intéresse à des choses qui utilisent des grands instruments, donc de la physique où il y a beaucoup d'hommes, néanmoins, la chimie comme la biologie sont plutôt des disciplines très féminisées. Donc, je dirais que c'est une discipline de ce point de vue peu sinistrée. Et donc, ça se voit. Enfin, lors du début de ma carrière ou lorsque j'étais étudiante, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, en direct en tout cas. Mais il se trouve que, quelle que soit la discipline et même les plus féminisées, il y a un phénomène, lorsqu'on avance dans la carrière, qui s'appelle le tuyau percé ou bien le leaky pipeline, et qui va agir à plusieurs moments de la carrière, à différents moments de la carrière, selon le fait que la discipline est plus ou moins féminisée. Donc en chimie, ça arrive particulièrement tard. Et donc effectivement, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités en tant que professeur, quand j'ai été nommée donc à l'ENS Ulm, ou l'ENS PSL, les choses ont un petit peu changé dans le sens où j'ai pu remarquer des choses. Et quand je me retourne, donc aujourd'hui, moi, ça fait un certain nombre d'années, donc je suis plutôt, disons, en fin de carrière. Et je considère que voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ma recherche, j'ai toujours fait des choix, donc il n'y a pas eu d'empêchement fort. Mais néanmoins, quand je me retourne sur ce qui s'est passé, oui, je constate qu'il y a des différences dans la manière dont les carrières évoluent d'une manière générale en sciences et en chimie pour les hommes et pour les femmes. Et ça, ce que j'ai ressenti, c'est plutôt, donc, comme je vous le dis, en fin de carrière, au moment où des prises de responsabilité. Donc voilà, c'est pas forcément direct, mais en tout cas, je l'ai ressenti. Donc ça, c'est l'aspect, personnel par rapport à cette expérience-là. Mais je dirais que l'intérêt est venu de mon expérience à l'ENS. Et je vais citer, donc je me suis occupée il y a quelques années. Donc Marc Mézard, qui était à l'époque directeur de l'ENS, m'a demandé de m'occuper de la nuit des sciences et lettres qui s'était intitulée à l'époque La Nuit Expliquée. J'avoue que je ne me souviens pas si c'était en 2016 ou 2014. À cette occasion, d'abord, j'ai voulu partager cette responsabilité avec un littéraire, en l'occurrence Mathias Girel, qui est philosophe. Et tous les deux, on a décidé d'interagir avec les différents départements pour faire en sorte que cette nuit soit représentative des différents départements. Et lors d'une table ronde que nous organisions pour discuter de la mise en place de la nuit, il y a une chercheuse, Feriel Kadour, qui est chercheuse enseignante chercheuse en art, qui a soulevé le point suivant, qui était que à l'ENS, il n'y avait que des hommes blancs. Même si je l'avais constaté, dans ma discipline, c'est pas tout à fait vrai, mais en regardant, c'était sous mes yeux, je veux dire, mais je ne l'avais pas formulé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur mais pourquoi dans certaines disciplines, notamment en mathématiques, il n'y a pas de femmes dans mon école. J'ai trouvé que c'était assez étrange. Donc les premières investigations, c'est on constate qu'elle tombe à l'écrit. Donc si elle tombe à l'écrit, on se dit c'est qu'il n'y a pas de biais. Mais pourtant, on sait qu'il n'y a pas de raison. Les femmes ont des compétences.
Vous voulez dire que si elles réussissent à l'écrit, elles réussissent à l'oral aussi qui vient après?
Exactement. C'est-à-dire que la barre pour elles est plus forte à l'écrit qu'elle ne l'est à l'oral. Donc une autre manière de dire les choses, mais je reviendrai sur l'étude qui a proposé cette interprétation, c'est qu'en fait, elles sont sursélectionnées au moment de l'écrit et que celles qui réussissent à passer la barrière de l'écrit, qui finalement, pour des raisons diverses, est plus haute pour elles, elles ont plus de facilité à l'oral.
Qu'est-ce que veut dire sursélectionnée?
Bien, il y a le fait que ce qu'on explique, enfin donc l'ENS, c'est un peu le sommet de, enfin la fin d'une chaîne alimentaire, je vais dire plutôt, c'est la fin de la chaîne alimentaire. Donc on dépend effectivement du vivier, c'est-à-dire comme donc les femmes sont au même niveau que les hommes au baccalauréat, elles réussissent même mieux au niveau du baccalauréat, mais on constate que malgré ces succès meilleurs, y compris dans les domaines scientifiques, elles s'orientent moins vers les filières sélectives. Donc, de facto, il y en a moins en classes préparatoires aux grandes écoles. Et comme nous, à l'ENS, on recrute sur les classes préparatoires aux grandes écoles, en tout cas pour une partie de notre recrutement, peut-être qu'on pourra discuter de ça plus tard, et bien sur ce recrutement-là, le vivier est moins féminin. Et donc, de facto, on va avoir forcément moins de femmes qui se présentent. Donc, c'est logique qu'on ait moins de femmes qui rentrent. Mais on constate que il y a encore, on a une disparition encore plus importante des femmes au moment du concours. Donc, c'est vrai moi, la première réaction, c'est, je pense que c'est celle que peuvent avoir toute personne qui apprend ça. Bah, si elle tombe à l'écrit, c'est qu'il n'y a pas de préjugés, en fait. Et donc, il y a une étude qui a été menée en 2016 par Marianne Blanchard, Sophie Orange et Arnaud Pierrel.
Ils ont écrit un
petit livre qui s'appelle « Filles plus science égale une équation insoluble, point d'interrogation ».
Avec un sous-titre qui enquête sur les classes préparatoires scientifiques.
Exactement, où ils ont, à la demande de Marc Mézard, essayé de comprendre pourquoi il y avait cette perte importante des femmes. Et ce qu'ils proposent, donc le livre fait une centaine de pages, donc là je simplifie, mais en gros, pour simplifier, c'est que au moment de l'écrit, les femmes subissent ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et donc là, elles sont arrivées à 2 ans après le bac, elles ont fait toute leur scolarité, où, pour faire simple, les messages qui leur sont donnés à la fois sous forme verbale, mais sous forme non verbale, par exemple par le nombre d'étudiants qui sont présents dans la classe, le nombre d'hommes qui sont présents dans leur classe par rapport au nombre de femmes, on leur explique que leur place n'est pas là en mathématiques. Et donc au moment où elles arrivent au concours, en particulier qu'elles rentrent dans la salle du concours et qu'elles voient qu'il y a 90% d'hommes...
Mais elles sont habituées à ça.
Elles sont habituées à ça, mais il y a forcément un stress qui se développe et qui va diminuer les capacités à...
Vous voulez dire que le stress qu'elles ressentent à ce moment-là consomme une partie de leur énergie cérébrale?
Exactement. Même si c'est pas un stress conscient, ça consomme ça. Et c'est donc un mécanisme qui a été mis à jour par Claude Steele et Joshua Aronson en 1995, et qui s'appelle donc en anglais, en français, la menace du stéréotype, et qui décrit ça. C'est-à-dire que quand un groupe est stéréotypé, quand on appartient à un groupe stéréotypé, on va échouer conformément à ce que dit le stéréotype en proportion plus importante que quelqu'un qui
subira. On donnera des exemples tout à l'heure, mais voilà, la conséquence de tout cela, c'est que vous avez mené depuis 2-3 ans, je crois, vous avez organisé des sortes de tables rondes pendant le mois des sciences, intitulées « Femmes et filles de sciences ». La prochaine aura lieu le 9 mars, je crois, sur le thème des femmes dans l'espace.
Exactement.
Les statistiques viennent de monter un peu avec Sophie Adnaud qui est dans l'ISS. Exactement. Et alors, qui vient à ces séminaires? Est-ce que vous observez dans le public qui assiste une parité ou est-ce que c'est une question qui intéresse finalement surtout les femmes?
Je dirais que oui, c'est sans doute... C'est mixte, mais dans les dernières tables rondes, c'était... Il y avait une majorité de femmes, oui, je pense. Ce qui est fort dommage, parce que je pense que c'est pas une question qui doit ne concerner que les femmes, mais les hommes doivent s'en saisir.
Je vous propose qu'on écoute une archive qui date de 1948. Je ne dis pas à l'avance qui parle, on en discutera après. Et je vous demanderai, Clotilde Policard, votre réaction.
Il faut faire comprendre au peuple français que nous avons besoin de beaucoup d'hommes et de femmes de culture scientifique pour épuiser les futurs chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les agronomes, les médecins dont nous avons besoin. Il faut que les parents, les professeurs de lycée, cessent de considérer l'enseignement moderne comme inférieur à l'enseignement classique. Il faut qu'ils tiennent à honneur d'y faire entrer les meilleurs élèves pour que notre pays puisse se relever par l'effort d'un grand nombre de jeunes gens préparés à la vie moderne. C'est une condition essentielle de l'indépendance de la France.
Voilà, c'est une archive qui nous fait entendre Irène Joliot-Curie, qui est prix Nobel de chimie 1935, avec son mari Frédéric Joliot-Curie. L'émission a été enregistrée le 5 janvier 1948 dans une émission qui s'intitulait « Beau langage, belle lecture ». Vous êtes évidemment d'accord avec ce qu'elle dit là?
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est important que l'ensemble de la population, garçons et filles, s'empare des études scientifiques, aille vers les études scientifiques.
On peut s'étonner qu'à ce moment-là, il y avait déjà toute la lucidité nécessaire pour comprendre la situation. Et pourtant, et vous l'expliquez très bien, les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on aurait pu l'imaginer.
Non, les progrès dans ce domaine-là sont extrêmement lents, effectivement. Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parte d'un cas d'école que vous avez assez largement étudié, Clotilde de Policard, qui est celui de Rosalind Franklin?
Oui, tout à fait.
Que vous appelez la Dark Lady de la structure de l'ADN.
Oui, tout à fait. Donc Rosalind Franklin, c'est un... Bon, je pense que... beaucoup de gens connaissent son histoire, mais il y a quelques détails qui me paraissent particulièrement intéressants. Donc, Rosalind Franklin est une chercheuse qui travaillait à Paris, d'ailleurs, sur la structure du carbone, enfin, de dérivés de carbone amorphe, on va dire. Et donc, il y avait une très bonne connaissance des méthodes de diffraction aux rayons X. Et donc, à l'époque, donc, on est... fin des années 40, tout début des années 50, il y a une vraie course à pour savoir quelle est la structure de l'ADN. L'ADN, c'est une molécule où il y a une molécule assez intéressante. Il y a un avant et un après la découverte de la structure de l'ADN, ce qui n'est pas le cas pour les protéines. Les protéines, c'est des objets dont on va apprendre à caractériser les structures petit à petit. Donc c'est un apprentissage progressif.
Continue.
Et l'ADN continue. On va commencer à mieux comprendre par petites touches, alors que l'ADN, il y a avant la double hélice et après la double hélice. Et il y a une course scientifique entre différentes équipes, dont une à Londres, où il y a Wilkins qui travaille sur cette question-là. Et on va faire venir Rosalind Franklin en lui disant qu'elle monte sa propre équipe. Et là, il y a probablement une ambiguïté initiale dont
sur son statut,
c'est-à-dire est-ce qu'elle est chef d'équipe ou est-ce qu'elle vient pour travailler sur le projet de Wilkins. C'est une vraie question. Donc elle vient pour monter son propre projet et Wilkins a le sentiment qu'elle va travailler plutôt qu'avec lui pour lui. Ce qui, dans l'ambiance du King's College, va être accrédité aussi par le fait que, par exemple, la salle des professeurs, c'est un environnement assez sexiste à l'époque, la salle des professeurs n'est pas autorisée aux femmes. Elle ne participe donc pas à un certain nombre de moments conviviaux et un certain nombre de discussions.
Au début des années 50.
Oui. Donc elle va être mise à l'écart d'un certain nombre de choses. Et en plus, elle veut arriver à résoudre cette structure. Donc elle va se consacrer vraiment à la question expérimentale. Donc elle va en particulier trouver le moyen d'aligner les fibres d'ADN pour en avoir une suffisamment grande quantité pour obtenir une figure de diffraction. Et elle va enregistrer ce qu'on a le cliché le numéro 51 avec un doctorant. Ce cliché 51 va être récupéré par Wilkins et dévoilé à Watson et Crick.
Sans son autorisation.
Et sans qu'elle le sache, d'après ce que j'ai pu lire. Donc Wilkins, on a déjà dans l'idée et avec cet échantillon, on voit qu'il y a une structure tridimensionnelle. Ça, c'est vraiment Rosalind, une structure, je veux dire, en hélice. Rosalind Franklin va le proposer. Et le génie de Watson et Crick, ça va être d'expliquer pourquoi cette structure est stable. Donc ça, c'est un apport énorme. Donc ce qui est regrettable, c'est que on oublie, et aujourd'hui encore, avec la mort de Watson, on l'a vu sur...
Il y a un an.
C'était au mois de novembre.
Ouais.
On oublie encore que Rosalind Franklin, c'est elle qui a fait les expériences.
Même quand Watson meurt, on ne cite pas le nom de Rosalind Franklin.
Voilà, on s'insurge d'un certain nombre de comportements et de propos qu'il pouvait tenir, raciste, homophobe. Mais on oublie de dire qu'il y avait aussi cette question autour du vol de ce résultat, qui est une vraie question.
Mais pourtant, Rosalind Franklin, elle a publié. Revue que les autres, ouais. dans le même chapitre, on pourrait dire. Et donc, comment se fait-il qu'elle ait été oubliée ?
Alors, en fait, elle publie parce que donc Watson et Crick vont préparer cet article que Nature veut publier, qui est extrêmement
attendu. C'est un article théorique.
Un article théorique qui explique, enfin qui propose une structure donc en hélice avec la justification de la stabilité. Bon, en mettant les bases à l'intérieur de la structure, ce qui permet d'expliquer la stabilité avec des interactions par liaison hydrogène. Je voulais dire, les bases de l'ADN sont à l'intérieur de la structure phosphate. C'est leur rapport. Mais évidemment, sans le cliché 51, ils ne peuvent pas faire cette proposition. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi ils cherchent à publier sans elle. Ça, c'est déjà une première question. Mais surtout, l'éditeur de Nature est intéressé par cette proposition. Il va envisager de faire cette publication et j'ai oublié le nom de cette personne, mais quelqu'un du King's College entend parler du fait que la publication va sortir et va proposer à Nature d'ajouter l'article en cours de rédaction de Wilkins, qui travaille en parallèle ou pour ou avec, avec Rosalind Franklin. Et il ne propose pas l'article de Rosalind Franklin. C'est Rosalind Franklin qui, en entendant parler, va devoir insister pour que son article paraisse. On va mettre les trois articles sous un même chapeau, ce qui s'appelle la structure de l'ADN. Et l'éditeur va indiquer clairement que il associe les trois papiers parce que le premier papier théorique repose sur les résultats expérimentaux du dernier papier.
Mais on aurait dû les mettre en premier.
Ce qui est extrêmement étonnant, puisque on aurait dû soit proposer qu'il y ait un seul article, soit proposer que l'article expérimental soit peut-être en premier. Donc c'est pas anodin, puisque aujourd'hui, quand on cite la structure de l'ADN, on cite que le premier, qui est celui de Watson et Crick. Donc les nombres de citations sont quelques dizaines de milliers. Je crois que c'est autour de 15 000, alors que l'article de Rosalind, c'est plusieurs milliers, mais donc c'est bien inférieur.
Et comment est-ce qu'elle a réagi, Rosalind Franklin?
Alors à l'époque, elle est déjà sur le départ. C'est pour ça que son article est déjà prêt. Elle s'apprête à quitter le King's College parce que l'ambiance avec ne lui convient pas. Et donc elle va partir dans une autre université. Elle est prête à partir dans une autre université pour étudier la structure des virus. Bon, elle le prend à la fois mal et bien, c'est-à-dire mal parce qu'elle va, elle trouve que c'est assez anormal, elle va exiger que le papier paraisse, bien dans la mesure où, de toute façon, elle s'apprête à partir et pour elle, c'est un peu du passé.
Elle est morte en 1958. Watson, Crick et Wilkins ont eu le prix Nobel en 1962. Moi, j'avais compris que si elle l'avait pas eu, c'est parce qu'elle était morte, mais en fait, à l'époque, on donnait encore le prix Nobel à des gens qui étaient morts récemment. Donc elle aurait pu l'avoir.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est assez étonnant. C'est quand on raconte cette histoire, on dit bon, elle n'a pas eu le prix Nobel parce qu'elle était morte et qu'on ne donne pas le prix Nobel à titre posthume. Mais cette règle.
C'est le cas aujourd'hui.
Oui, cette règle date de 1974. Et donc, à cette date-là, on aurait dû pouvoir la lui donner. Donc ça n'est pas la raison pour laquelle elle ne l'a pas eu.
Mais on le donne qu'à trois personnes au maximum.
Exactement. Et donc il y avait déjà Watson, Crick et Wilkins. Donc, c'était un problème. Elle est sur la quatrième marche, comme bien souvent les femmes dans le cas des histoires.
Oui, on donnera d'autres exemples tout à l'heure. Mais est-ce que les questions que nous nous posons, Claudine Policard, ont celles des femmes en sciences, donc, est-ce que cette question percute la question du corps des femmes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mettre sur la table, si j'ose dire, quand on envisage ces différences de comportement des hommes et des femmes vis-à-vis des sciences? Dans votre séminaire, je crois que vous avez consacré une soirée à la question du corps des femmes. Quels sont les enjeux que cela pose?
Alors, la table ronde qu'on avait faite et qui est disponible toujours, elle a été captée, donc elle est disponible en format audio, en podcast, sur le site Savoir ENS. Et donc, sur ce débat sur le corps des femmes, c'était plutôt autour des questions des violences sexuelles et sexistes et sur des questions qui portaient sur justement comment une institution peut gérer les violences ou doit gérer plutôt les violences sexuelles et sexistes. Donc sachant que il y a eu d'énormes progrès dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et sur la question donc très importante de la sidération quand les femmes sont agressées ou en tout cas qu'il y a eu des atteintes à leur intimité. Il y a une sorte de ce qu'on appelle elle se fige. Et c'était sur ces questions-là essentiellement que portait le débat et sur l'évolution aussi de la loi au regard de ces questions. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait que les femmes ou non sont présentes en sciences? On pourra reparler des violences sexuelles et sexistes, en quoi ça peut avoir un effet sur les choix disciplinaires. Ce qui est sûr, c'est que donc dans un documentaire que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Picture Scientist, il y a une chimiste qui s'appelle Rachel Brooks, qui est une femme, mais qui est aussi noire. Et donc ça rejoint tout ce qui concerne l'intersectionnalité. Hein. Quand on est une femme et qu'on est noire, c'est encore plus difficile, puisqu'on va subir l'effet cumulé et décuplé peut-être des deux discriminations. Et elle raconte que notamment, elle va avoir des remarques sur sa chevelure et le fait que, bien évidemment, comme elle va en congrès, il va falloir qu'elle attache ses cheveux, puisqu'elle a des cheveux particulièrement abondant et crépus. Et voilà, elle le raconte avec beaucoup d'émotion, parce que c'est très intrusif comme type de, comme type de commentaire. Et je crois qu'elle fait mention aussi de remarques sur qu'elle a eu à subir des remarques sur ses tenues vestimentaires. Donc ça, ça a des effets sur...
C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'uniforme obligatoire des chercheurs imposés par des modèles masculins ?
Tout à fait, oui. Oui, oui. La manière de s'habiller, la manière de se tenir. C'est étrange d'avoir une femme habillée en tailleur rose et avec des cheveux crépus extrêmement abondants.
Mais si on en a envie.
Tout à fait, si on en a envie. Ouais.
Alors, depuis les années 1990, en France, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Les filles ont un meilleur parcours dans le secondaire. On observe qu'il y a moins de redoublements chez les filles que chez les garçons. Elles ont en moyenne de meilleurs résultats au bac. Et pourtant, on trouve seulement un quart de femmes dans les formations d'ingénieurs. Qu'est-ce qui se passe dans ces années cruciales qui vont de l'âge de 18 ans en moyenne à 22, 23 ans?
Bon, c'est un âge où on est très influençable. Et encore une fois, il y a eu toute l'éducation jusqu'au bac qui a pu peser. Il y a un article récent de Pauline Martineau qui, dans Nature, en juin 2025, si je me souviens bien, qui justement évoque la question de à partir de quel moment apparaît une différence dans les résultats en mathématiques chez les enfants, sachant que il n'y a aujourd'hui aucune donnée biologique qui puisse soutenir le fait que, qui aille dans le sens du fait que les hommes seraient naturellement plus compétents que les femmes en mathématiques ou biologiquement plus compétents que les femmes en mathématiques. Il n'y a aucune donnée. Donc, on observe avec des études sociologiques, ne serait-ce que des mesures statistiques, qu'il va y avoir ce différentiel au moment du choix après le bac, mais on constate que dès le CP, c'est ça qui est assez remarquable, il va y avoir une différence dans la manière dont les filles vont rapporter leur intérêt pour la pratique des mathématiques et vont aussi se vivre comme moins bonnes que les garçons et vont légèrement chuter
C'est même plus incroyable que ça ce qui se passe en CP, puisqu'à l'entrée, au début de l'année, les filles sont meilleures que les garçons en français et ont le même niveau en maths, et tout d'un coup, en cours d'année, ça change.
Ça change. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'étude qui a été menée, ils ont utilisé le Covid pour essayer de discriminer entre l'effet de la maison, parce qu'il y a les parents aussi qui peuvent l'environnement familial, entre l'effet de la maison et l'effet
de l'école.
De l'école. Et le résultat de leur étude, c'est que l'école a un énorme effet. Puisque quand on était à la maison, on a réduit cet écart entre les filles et les garçons en CP.
Moi, j'aurais parié l'inverse.
Très étonnant. Mais ça, c'est assez porteur d'espoir parce que cela veut dire qu'il faut former les enseignants et les professeurs des écoles à ces questions-là. Et donc, à travers l'explication de ce qu'est le biais de genre, on doit pouvoir aider justement à faire en sorte qu'il soit plus réduit à l'école.
Donc, vous parlez d'espoir, Claudine de Policard. Connaissez-vous l'anagramme de la parité en sciences?
Non, je vous laisse.
Ça donne « incite à l'espérance ».
Ah, bah voilà.
La parité en sciences « incite à l'espérance ». Vous pouvez la tourner dans l'autre sens. L'espérance incite à la parité en sciences. C'est comme vous voulez. Okay. Alors, il y a aussi ce que vous appelez la puissance des stéréotypes. Quand on demande à des filles et à des garçons de reproduire une figure géométrique de mémoire, on leur montre un dessin, on le retire de leur regard, on leur demande de le reproduire sur une feuille de mémoire. Si on leur dit « c'est un test de dessin », ouais, les filles sont meilleures que les garçons. Et si on leur dit que c'est un test de géométrie, eh bien les garçons font mieux que les filles.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut en conclure?
Alors je vais même donner un tout petit complément, c'est que les filles, quand elles réussissent mieux, quand on leur dit que c'est du dessin, elles réussissent même mieux que les garçons à qui on a dit que c'était de la géométrie. Donc quand elles performent mieux que les garçons quand eux aussi sont performants. Alors comment on explique cela? Eh bien, c'est toujours cette idée de menace du stéréotype quand on va et de la question de l'importance de la consigne. Les filles ont comme stéréotype qu'elles sont moins bonnes en géométrie, mais en revanche pour l'art, c'est une discipline où elles excellent. Mais c'est aussi des choses qu'on dit aux garçons. Donc ça va aussi à l'encontre des garçons, puisque donc les garçons vont aussi échouer quand on leur dit que c'est du dessin. Donc les garçons vont penser que, enfin, ont comme stéréotype que, bah voilà, ils sont faits pour les maths et bah peut-être moins pour les arts. Donc ça va dans les deux sens, hein. C'est pas uniquement au détriment des filles, c'est aussi au détriment des garçons pour les arts. Et donc partant de là, lorsqu'on exprime que c'est un exercice de géométrie, elles anticipent qu'elles vont échouer. Et anticipant qu'elles vont échouer, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, elles vont en fait, en gros, pour résoudre un problème, l'image que je donne, c'est qu'on a une sorte de boîte de volume fini avec une capacité de connexion synaptique de volume fini. Et que si on en utilise un tiers pour contrôler ou pour se dire « oh là là, je vais pas y arriver », qu'on essaye de contrôler ça, on sait bien que quand on se dit qu'on va pas y arriver, on a un peu plus de mal à arriver à réaliser une tâche. Et bien ça explique l'échec. Et le fait qu'elles vont être moins performantes quand on leur explique.
Mais j'ai lu que le même phénomène se produit quand on a affaire à des élèves qui ont la réputation d'être mauvais en maths et d'autres qui ont la réputation d'être bons en maths. Si on leur présente le problème une fois en leur disant que c'est de la géométrie, une autre fois en disant que c'est du dessin, on retrouve les mêmes écarts.
Est-ce que c'est la même chose?
C'est la même chose, en fait.
À l'élève à qui on dit qui pense qu'il est mauvais en maths, quand on lui dit que c'est un exercice de géométrie, il va subir cette mauvaise.
C'est-à-dire qu'on produit des performances qui sont en relation avec la réputation qu'on a.
Avec la représentation qu'on a de soi-même.
De soi-même.
Et on peut réaliser, on peut provoquer ça dans de très très nombreuses situations. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite à Harvard et qui a convoqué les meilleurs, enfin convoqué, qui a proposé à des étudiants excellents en maths, souvent des hommes blancs, de venir faire un test et de maths pour tester des choses. Et avant, on les soumet à un environnement où on leur indique que les mathématiciens asiatiques sont bien meilleurs que les mathématiciens américains. Donc il y a des revues sur la table où ils attendent, et puis il y a des interactions qui font que... On leur met une petite pression. Et bien, dans la situation où on leur a mis la pression, statistiquement, évidemment, c'est pas les mêmes, hein, mais le groupe à qui on a mis la pression va plus échouer que le groupe à qui on n'a pas mis la pression. Donc même le groupe qui normalement se vit comme dominant,
a confiance en lui.
Voilà. Non, mais même le groupe qui est dominant, on peut induire la menace du stéréotype en lui disant en fait non, vous n'êtes pas totalement dominant. Et ça a été testé dans beaucoup beaucoup de situations.
Alors il y a une autre chose qui apparaît dans les études qui ont été menées, ça m'a beaucoup surpris, c'est que les stéréotypes jouent plus dans les sociétés qui sont les plus libres.
Ah ça, c'est le paradoxe, une sorte de paradoxe de l'égalité de genre qui a été mis à jour par... Alors je ne sais pas si c'est mis à jour par eux, mais en tout cas, Elias Jouini, Clotilde Knapp et Thomas Breda ont écrit plusieurs articles sur le sujet. Et l'idée est la suivante, c'est que... vous connaissez la notion de plafond de verre, donc il existe, c'est ce que je mentionnais aussi tout à l'heure avec le fait que ce plafond de verre en chimie, il est relativement tardif dans la carrière, mais dans d'autres disciplines, il va être plus précoce, donc il va pouvoir bouger en fonction des situations. Donc ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment, quand on passe ce plafond de verre, on lève, on devient transgressif, et quand on est transgressif, après on a un choix plus libre. C'est ça l'idée. Donc, dans les sociétés où il est plus difficile d'accéder à l'enseignement supérieur, par exemple, les pays moins développés, la transgression, c'est d'accéder à l'enseignement supérieur. Ça peut aussi être d'accéder à l'enseignement supérieur pour une femme, parce que ce qui est difficile, c'est d'accéder à l'enseignement supérieur quand on est une femme. En revanche, quand on est dans les pays du Nord, en Suède, c'est normal que femmes, hommes, tout le monde aille à l'université. Donc là, il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de transgression. Et donc, chez ces populations où il n'y a pas la transgression, les femmes, elles vont subir le plafond de verre plus tard, ou en tout cas, il va falloir qu'elles vont se soumettre au stéréotype à un autre niveau. Et au lieu que le stéréotype il soit dans « je vais à l'université » ou « je ne vais pas à l'université », il est dans « je choisis les sciences » ou « je choisis les lettres ». Donc, les femmes qui transgressent, elles vont être ensuite plus libres dans leur choix, et c'est ce qu'on constate. Elles vont choisir plus librement dans les pays moins développés les sciences par rapport aux lettres, alors que dans les pays plus développés, il va y avoir un très très fort stéréotype au choix de la discipline parce que l'accès aux études est libre.
Est-ce qu'il y a un lien, Clotilde Policar, entre les biais qu'on appelle sociaux et les biais de genre ? Parce que si on prend l'exemple des grandes écoles, par exemple, il y a quand même moins de fils d'ouvriers sur les bancs des amphithéâtres que de fils d'ingénieurs, par exemple, d'avocats ou de profession.
Alors, est-ce qu'il y a des liens? On constate effectivement que est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce qu'il y a un lien? En gros, pour les fils d'ouvriers, ça va être, je pense, la même menace du stéréotype que pour les femmes. Ils savent que c'est pas leur milieu, c'est plus difficile d'accéder, Et donc il faut être quelqu'un de transgressif pour arriver dans une classe préparatoire aux grandes écoles et puis subir cette pression de la classe préparatoire aux grandes écoles et ensuite rentrer. Donc je pense que c'est le même mécanisme sur un autre paramètre qui est le lien social. Alors ensuite, évidemment, quand une femme est d'un milieu socioculturel défavorisé, ça va être encore dupliqué. Donc oui, il y a un lien.
Je voudrais qu'on revienne, Clotilde Policar, sur le livre que vous avez cité tout à l'heure, qui s'intitule « Filles plus science, une équation insoluble », sous-titre « Enquête sur les classes préparatoires scientifiques ». C'est une enquête qui a été menée par 3 sociologues en 2016, je crois, Marianne Blanchard, Sophie Orange et Arnaud Pierrel. Et on trouve des phrases assez étonnantes. Par exemple, dès l'introduction, il est dit « Les filles se censurent parce qu'elles sont censurées ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et un peu plus loin, on voit cette phrase « Les filles ne s'excluent pas d'elles-mêmes des filières scientifiques qui préparent aux écoles d'ingénieurs, on les en exclut et on le fait d'autant plus violemment qu'elles proviennent de milieux populaires ».
Alors, souvent, quand on dit « il y a moins de femmes en sciences », il y a plusieurs types de réactions et souvent on va dire « si les femmes ont moins d'appétence, c'est ce que vous avez dit au début, est-ce que c'est lié à une différence d'appétence ?» Peut-être que tout simplement, les femmes, elles ont moins envie de faire des sciences. Si c'est le cas,
Faut respecter ce choix.
Voilà, tout à fait. Et donc, si on part de cette idée-là, et souvent on va dire aux femmes, ne vous censurez pas. On va considérer que finalement, si vous n'allez pas vers les sciences, peut-être que c'est parce que vous n'en avez pas le goût, peut-être que c'est parce que vous vous censurez, mais finalement, c'est de votre fait. C'est en ce sens que le livre essaye de s'opposer à ce type de phrase. C'est que ce qu'ils essayent de montrer dans le livre, c'est que les femmes ne se censurent pas, mais qu'en fait, on leur explique depuis par le comportement social, les petites phrases qu'il peut y avoir des enseignants ou la manière dont c'est ce qu'ils mettent à jour, dont les bulletins vont être rédigés. On leur explique que leur place n'est pas là et donc on les en exclut. Donc c'est très important de se méfier de ça parce qu'à force de dire aux filles « mais ne vous censurez pas, allez-y », ce qui est une bonne chose, il faut le dire, il ne faut pas non plus qu'on fasse peser le poids de leur exclusion sur elles et au contraire expliquer tous les biais de genre qui peuvent exister, qui sont liés à la société, ça ne peut qu'aider les jeunes femmes à surmonter.
Donc, si je comprends bien, elles subissent des pressions tout au long de leur scolarité, ce qui veut dire qu'il ne suffit pas d'encourager les filles. Il faut aussi changer les mentalités des enseignants, des parents, etc.
Oui, donc par exemple, sur les bulletins scolaires, il y a toute une page où ils ont analysé les bulletins scolaires pour des niveaux de notes identiques. Et je grossis le trait, mais en gros, un garçon qui a 12 sur 20 en maths, il est prometteur. Une fille qui a 12 sur 20 en maths doit prendre confiance en elle. Une fille qui a 18 sur 20 en maths, elle est appliquée. Un garçon qui a 18 sur 20 en maths est un génie. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est chez les professeurs. Mais je dirais que...
Moi, j'ai lu autre chose. Enfin, ça va dans le même sens. Que l'échec des garçons est attribué à un manque de travail, alors que l'échec pour les filles est attribué à une absence de capacité.
C'est un peu la même...
C'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose.
Alors, ce rapport qu'on vient de citer, il date de 2016. Depuis, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour que les femmes viennent en sciences, s'y intéressent davantage. Il y a toutes sortes de manifestations qui ont lieu, de célébrations même. On va avoir des 170 noms de femmes sur la Tour Eiffel dans quelques temps. Est-ce que depuis 2016, la situation a évolué dans le bon sens?
Alors je dirais oui, mais parce qu'on parle de ces choses-là, donc ça tout le monde le constate, mais ça reste extrêmement lent. Et moi, ma conviction, c'est que...
Oui, si on regardait le même rythme, la parité adviendrait en 2068.
Voilà, c'est ça. Si on prend comme échelon le nombre de professeurs à l'université femmes dans les domaines scientifiques et qu'on trace une ligne en notant l'évolution depuis 2005, on constate qu'effectivement, pour atteindre la parité, il faut attendre les années 60. Donc voilà, c'est dans assez longtemps. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dès qu'on arrête de le dire, et ce parce que c'est vraiment un poids qu'on a dans la société, dès qu'on arrête de faire des actions, ça revient tout de suite en arrière. Donc l'exemple qu'on peut prendre, c'est la réforme des études, des mathématiques au lycée, qui est assez dramatique, puisque aujourd'hui, le nombre de jeunes femmes qui ne font plus de mathématiques en terminale est au-dessus de 40%, alors que il y a 30 ans, c'était en dessous de 20%. Et on sait aujourd'hui que c'est majoritairement les garçons qui vont choisir les disciplines, les maths expertes notamment, sans parler les maths expertes particulièrement, mais c'est aussi vrai pour la discipline maths spécialité. Et ça, c'est dramatique pour les études supérieures, puisque en France, il y a beaucoup de choses qui sont dans les études scientifiques centrées autour des mathématiques. Ça serait pas forcément un problème dans d'autres sociétés, mais chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont centrées autour des mathématiques.
Parce que c'est la discipline de sélection.
C'est une discipline de sélection. Donc ça, c'est un état de fait de ce qui se passe en France. Et donc, c'est sûr que si on ne fait pas des mathématiques à un haut niveau en terminale, on va être perdu pour la suite des études scientifiques. Et ça, c'est très dommage. Donc là, il y a un recul. Une action a entraîné à peu près 30 ans de recul. Et on essaye de revenir en arrière. Mais on constate que c'est très difficile. Ça va être très difficile de revenir au niveau d'avant 2018, on va dire.
Mais enfin, le bilan doit être nuancé parce que les filles ont dépassé les garçons. Je parle du nombre de filles. Durant les études, on dépassait les garçons dans les instituts d'études politiques, en médecine, dans les écoles d'architecture, et elles les ont rattrapées et maintenant dépassées dans les écoles de commerce.
Oui, mais ce ne sont pas des disciplines...
Écoles de commerce, on fait des mathématiques.
Oui, tout à fait. Mais c'est... Donc, alors, la question c'est, pourquoi est-ce que c'est si important que ça, finalement, s'il y a moins de filles en sciences, mais qu'elles se réalisent dans d'autres champs, est-ce que c'est vraiment très grave? Donc moi, je pense que oui, pour la raison suivante, c'est que aujourd'hui, enfin, je pense que oui, je pense que pourquoi est-ce qu'on veut agir? Il y a d'abord la question de l'équité. Y a une jeune femme, si on l'exclut, si c'est elle-même qui décide de ne pas faire des sciences, moi, ça ne me pose aucun problème. En revanche, si c'est un processus d'exclusion qui est lié à ce qu'on a décrit, qui produit le fait qu'elle ne va pas en sciences, là, il y a une vraie question, à se poser d'un point de vue de l'équité. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est face à des défis scientifiques importants sur la planète Terre qui brûlent et qu'on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser tous les cerveaux. Et donc forcément, moi je prends cet exemple, je ne sais pas s'il est très parlant, vous allez me dire, le Brésil c'est un grand pays de foot. Il y a beaucoup, beaucoup de Brésiliens. Donc le pourcentage de chances qu'il y ait des gens taillés pour le football, bien sûr il y a d'autres raisons, mais en tout cas il est supérieur à celui d'avoir des gens taillés pour le football, pour faire une équipe suffisamment nombreuse, au Luxembourg qui est un beaucoup plus petit pays. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça veut dire que si on prend la population amenée à résoudre un problème et qu'on la divise par deux parce qu'on retire toutes les femmes, eh bien on perd la moitié des solutions. Déjà. Parce qu'on perd la moitié des cerveaux. Et donc ça, c'est pour moi un problème d'efficacité de la société. Par ailleurs, on sait aujourd'hui, et ça toutes les études le prouvent, c'est que on obtient des meilleures solutions quand on fait travailler des groupes divers. Donc si on met entre eux que des gens qui sont issus d'un même milieu socio-culturel, de même environnement, eh bien on aura des solutions moins riches que si on met des gens divers entre eux. Et ça, ça a été montré sur les articles, les impacts des articles sont plus importants quand il y a des groupes divers qui sont co-auteurs. C'est vrai aussi dans les groupes scolaires. Hein. Un groupe classe, eh bien il va y avoir, ça a été montré sur par exemple des écoles d'informatique dans les pays, je crois que c'était au Danemark, ont montré que à partir du moment, on pourra discuter de ça aussi, mais il y a assez peu de femmes qui veulent faire de l'informatique aujourd'hui. Donc c'est une vraie question, c'est un métier lucratif. Historiquement, elles ont joué un rôle extrêmement important jusqu'à peu près le milieu des années 70. Et là, maintenant, en fait, c'est des disciplines extrêmement où les filles ne vont pas s'orienter vers là. Et donc, il y a une école qui au Danemark qui formait des informaticiens et qui a décidé, constatant qu'ils avaient 12% de filles, d'augmenter de 3% tous les ans le nombre de filles qu'ils acceptaient. Donc, histoire de ne pas faire une vague ou pas un tsunami, donc de le faire ça petit à petit.
Un tsunami de filles,
on fait ça petit à petit. Et petit à petit, ils se sont imposés d'incorporer de plus en plus de filles. Et ils ont constaté que d'abord, le niveau, enfin les filles étaient tout à fait au niveau des garçons, et que même les scolarités des garçons étaient améliorées. Parce que le groupe devenant divers devenait plus bienveillant, il y avait des choses... Ça, c'est intéressant de se dire ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que la question de la parité ne concerne pas, ou de l'équité, ou de l'égalité des chances en termes de genre, ne concerne pas que les femmes, mais concerne aussi les hommes.
On va voir si le raisonnement est symétrique. On a dit tout à l'heure que les filles subissent tout au long de la scolarité des pressions qui les invitent à ne pas faire de sciences. Mais prenons l'exemple de garçons qui auraient des bonnes notes en mathématiques et qui désiraient faire des lettres ou de la philosophie. Est-ce qu'ils subiraient la même pression, les incitant à rester dans le champ des mathématiques, à votre avis? Alors, je sais pas si des études l'ont montré ou non.
Alors il y a des études, quelques données là-dessus que je connais assez mal, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que donc on a dit que les filles au concours d'entrée à l'école normale supérieure pour devenir fonctionnaire stagiaire échouent et qu'elles vont, il va y avoir tous ces biais-là. Et on constate que pour les garçons, c'est légèrement l'inverse et qu'ils vont être poussés, comme c'est un paradoxe, c'est que comme il y a peu de garçons dans les classes de spéciales en lettres, eh bien, on va les pousser. Et donc, on a la réaction inverse de la société qui va pousser
mais
cette
alors, pourquoi
minorité.
Est-ce, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas les filles dans les prépas scientifiques ?
C'est une vraie question. C'est parce que c'est ailleurs que se joue que se jouent les choses. C'est sur la représentation qu'on a le fait que les femmes n'ont pas leur place en sciences.
Et est-ce que ça changerait la situation si la plupart des professeurs dans les classes préparatoires scientifiques étaient des femmes plutôt que des hommes ? Est-ce que le sexe du professeur joue un rôle dans le rapport qu'on a avec la discipline ?
Alors, pas nécessairement. Oui, parce que on a besoin de rôle modèle. Donc, on a besoin de avoir un professeur femme dans une discipline. Ça vous indique, que vous pouvez vous projeter.
Moi, j'avais une prof de chimie qui était une femme.
C'est pour ça que vous n'aimiez pas la chimie?
J'ai pas dit ça. Mais j'ai eu des mauvaises notes.
Non, mais donc ça peut aider, mais ça n'est pas nécessairement la solution. Parce que les femmes sont aussi biaisées que les hommes. Donc en fait, ce qui est important à mon avis, c'est de travailler sur ces questions-là. C'est autant pour les professeurs femmes que pour les professeurs hommes. C'est de travailler sur la conscience qu'on a de ces biais. Et là, il y a des méthodes pour analyser ça. Il y a des études qui ont montré que quand on est conscient de ces biais et qu'on fait en sorte de les contrecarrer, ça a un effet. Donc plus que le genre du professeur, c'est plutôt la formation du professeur. Et donc nous, dans le cadre dont vous avez parlé du programme Femmes et Filles de Sciences de l'ENS, et dans le cadre de ce programme, on a la conviction qu'il faut faire ces formations-là. Donc on essaye de transmettre, d'avoir des sensibilisations, notamment au niveau des membres du jury du concours, sur ces biais de genre, pour faire en sorte justement qu'il y ait une certaine prise en compte et qu'on soit... Il y a une forme de, peut-être, compensation de ces biais.
Claudie de Policar, dans ce constat que nous faisons, qu'est-ce qui est propre à la France et qu'est-ce qui se retrouve aussi dans d'autres pays, disons de l'OCDE ? Est-ce que c'est une tendance très générale ou est-ce qu'il y a des particularités nationales qui créent de gros écarts ?
Peut-être la prééminence des mathématiques dans les études supérieures scientifiques en France joue un rôle spécifique. Les mathématiques, c'est une discipline très très forte en France. Donc ça peut être paradoxalement un biais négatif sur le fait que les jeunes filles vont s'identifier puisque c'est une discipline peu féminisée.
Est-ce que c'est pas la France qui a inventé l'idée fausse qu'il y a différentes sortes de cerveaux, des cerveaux littéraires, des cerveaux scientifiques?
Alors ça, on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. C'est totalement faux.
Il y a quand même ce message implicite qui est distillé dès les plus jeunes âges à l'école.
Je pense que c'est pas spécifiquement français. Regardez dans certains pays, prenons les États-Unis où il y a des effets tout à fait similaires et on va avoir des universités comme Barnard College par exemple qui sont des universités non mixtes justement pour aider les femmes à prendre la parole. Donc c'est bien qu'il y a aussi cette difficulté au niveau des études dans d'autres pays.
Est-ce que vous connaissez un personnage qui s'appelle François Poulain de la Barre? C'était un monsieur assez singulier, il a été cartésien, féministe, il a été prêtre de l'Église catholique. Il a été aussi protestant, l'époque était compliquée, et en 1673, à l'âge de 25 ans, il a fait paraître anonymement un traité intitulé « De l'égalité des deux sexes », sous-titre « Discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés ». C'est dans ce livre qu'il y a la phrase reprise par Simone de Beauvoir, « L'esprit n'a pas de sexe ». Mais il dit ceci, « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes, mais cela ne peut être établi qu'en refusant deux sortes d'adversaires. Le premier est la pensée vulgaire, le second est l'ensemble de presque tous les savants. » 1673. Est-ce qu'il là ressemble à assez près à ce que vous venez de nous expliquer?
Oui, parce que tout avance.
Ça veut dire que les choses avancent lentement.
Très lentement.
Oui, oui. Et question peut-être maladroite ou impertinente, mais est-ce qu'il est absolument vrai que l'esprit n'a pas de sexe? À votre avis?
Donc les études, moi je sais pas mon domaine de recherche, mais les études en sciences cognitives qui s'intéressent à ces questions-là montrent que les cerveaux masculins et féminins fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas d'études aujourd'hui, soutenables, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il n'y a pas d'études...
conclusive,
qui permet de dire qu'il y a un mode de fonctionnement différent. Les femmes peuvent avoir, enfin les femmes et les hommes peuvent avoir, à cause de leur histoire, des manières de résoudre les problèmes qui sont différentes, mais c'est pas lié à la structure de leur cerveau. Je crois qu'il y a aucune ambiguïté là-dessus maintenant scientifiquement.
Il y a quand même un cas historique qui est intéressant, qui va plutôt justement à l'avantage des femmes, c'est la découverte de la fission nucléaire. Vous savez, en 1934, un physicien italien, Enrico Fermi, à Rome, bombarde de l'uranium avec des neutrons. Il est persuadé d'avoir fabriqué un élément plus lourd que l'uranium, l'élément 93. Il y a 92 protons dans l'uranium, le neutron se transforme en proton et capturé par l'uranium, ça fait l'élément 93. Il va recevoir le prix Nobel pour cette découverte. Mais quelques jours plus tard, il reçoit une lettre d'une Allemande qui s'appelle Ida Nodak, qu'on appelle la Marie Curie allemande, qui a reçu le prix Nobel. Non, elle n'a pas le prix Nobel, mais elle a découvert le rhénium, l'élément 75, avec son mari. Oui, j'ai fait un peu de chimie, moi aussi. Et elle écrit une lettre infirmière en disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fabriqué l'élément 93? Est-ce que l'uranium, percuté par le neutron, n'aurait pas pu se couper en morceaux, c'est-à-dire fragmenter ?» Elle publie même un article où elle défend cette hypothèse, en 1934. Cet article est ignoré, méprisé, c'est une femme, elle n'a qu'à faire les mesures chimiques de la cible, etc. 4 ans plus tard, un Allemand, Otto Hahn, refait la même expérience, découvre dans la cible dont il fait l'analyse chimique la présence de barium, donc un élément chimique plus léger, bien plus léger. Il pense que ça vient d'une impureté. Il a lu l'article d'Ida Nodak. Il pense que c'est une impureté, il nettoie son labo, il retrouve du barium dans la cible. Et ne trouvant pas d'explication, il envoie ses résultats à Lise Meitner, une autrichienne qui avait été sa collaboratrice et qui avait dû quitter l'Allemagne du fait qu'elle était juive. Et c'est elle qui va comprendre que l'uranium a fissionné sous l'impact d'un neutron. Donc là, on a deux femmes qui ont imaginé un processus qui s'est avéré par la suite exact, que tous les hommes qui étaient plus nombreux qu'elles à l'époque sur la même question avaient considéré comme impossible.
Oui, mais est-ce que c'est lié à la structure du cerveau féminin?
Non,
ou est-ce
j'ai
que
pas
c'est
dit
lié...
ça.
C'est peut-être simplement lié au fait qu'elles étaient plus transgressives que les hommes de l'époque, parce que justement, elles étaient des femmes en physique atomique.
Mais vous, quand vous travaillez dans votre équipe pour faire des expériences de chimie, est-ce que vous observez chez les hommes et chez les femmes des différences d'analyse, de comportement, de réaction?
Dans le laboratoire, vous voulez dire?
Oui.
Je suis pas certaine. Ce que je constate, c'est que dans les salles de classe, c'est clair que ça c'est pas moi qui le dis, mais les garçons vont prendre plus souvent la parole. Donc est-ce que c'est le cas? Alors, pas au laboratoire, mais dans les conférences, c'est aussi très clair que les hommes vont plus facilement poser des questions que les femmes, et elles ne sont pas de même nature. C'est souvent des questions pour... c'est pas vraiment des questions, c'est pour montrer qu'ils savent. Et souvent, une femme, quand elle pose une question, c'est vraiment parce qu'elle a une... Ouais, je suis un peu caricaturale, mais... Donc oui, de ce point de vue-là, je sais pas si je dirais que je l'ai observé au quotidien au laboratoire, mais en tout cas, oui, ça se voit qu'il y a des...
Vous voulez dire qu'il y a un peu plus d'arrogance chez les hommes?
C'est pas de l'arrogance, mais c'est...
Moi, je sais.
C'est pas la même manière d'aborder le fait de se lever dans une salle de conférence et de poser la question. ils le font pas pour la même raison.
Et parfois, il y a des sortes d'aberrations historiques. Par exemple, si vous regardez les photos des grands congrès de physique et de chimie, notamment les conseils Solvay dans les années 20-30, il y a quasiment que des hommes. En 1927, un congrès qui a été très célèbre, il y a qu'une seule femme qui est Marie Curie. Et pourtant, quand un jeune physicien qui s'appelle Ettore Majorana a enseigné la physique théorique à Rome en 1938, il n'y avait que 5 étudiants, dont 4 étaient des étudiantes. Et on a d'ailleurs gardé toutes les notes de ces cours, puisque l'étudiant qui était là était venu parce qu'il était tombé amoureux d'une des étudiantes.
D'accord,
en fait, il s'est pris de passion pour le cours, il a pris des notes. Et donc en 1938, à Naples, en Italie, ce sont les filles qui étudient la physique théorique.
Okay.
Oui, il y a toujours des bizarreries.
Tout à fait.
Alors, pour revenir à la question principale, comment faire pour accélérer l'évolution dans le bon sens? Quelles sont les mesures les plus importantes qu'il faudrait mettre en place? Outre les discours, les encouragements?
Alors, dans les mesures qu'il faudrait mettre en place, donc déjà, il y a un point qui concerne la visibilité des femmes en sciences. Elles sont peu visibles et elles ont souvent été écartées de l'histoire des sciences. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît importante, c'est de les remettre dans les livres.
Donc aller visiter la Tour Eiffel.
Aller visiter bientôt la Tour Eiffel, exactement, et les remettre dans les manuels scolaires. Il y a beaucoup de femmes, en fait, en histoire des sciences. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça suffit pas, parce que je suis pas sûre qu'une jeune fille, elle va s'engager dans une carrière scientifique parce que Marie Curie a existé. Et donc, il faut aussi des rôles modèles qui sont accessibles aux jeunes femmes. Ça, c'est aussi des choses qui paraissent importantes et que, dans le cas toujours de ce programme Femmes et Filles de Sciences à l'ENS, on essaye de faire à travers les wikitons. On constate qu'aujourd'hui sur Wikipédia... Les wikitons. On constate aujourd'hui que sur Wikipédia, les femmes sont beaucoup moins souvent, ont beaucoup moins souvent des pages. Les femmes même qui sont des chercheurs de renom ont moins souvent des pages. Et quand elles ont des pages, elles sont moins illustrées. Il y a moins de photos. Et donc aujourd'hui, il y a l'idée qu'il faut... est-ce qu'il ne faut pas rajouter des femmes dans Wikipédia? Donc oui. Puis est-ce qu'il faut aussi essayer de mieux, d'abonder, de remplir et de compléter les pages concernant les femmes? Et donc ça renforcerait aussi la visibilité des femmes. Donc il y a différentes actions pour essayer d'amener les femmes vers la science. Il y en a une que je voudrais citer, c'est le fait qu'à l'ENS, donc j'ai beaucoup parlé du concours d'entrée pour devenir élève fonctionnaire stagiaire, donc le concours qu'on appelle celui des classes préparatoires aux grandes écoles, mais on a aussi à l'ENS un concours qui s'appelle le concours normalien étudiant, qui permet de rentrer, c'est aussi un concours, mais qui est un concours où on va sélectionner dans une discipline donnée et en lien avec une appétence pour faire de la recherche. Et dans le cadre de ce concours-là, lorsque les femmes rentrent dans les disciplines particulièrement sinistrées au niveau du genre, c'est-à-dire en mathématiques, physique et informatique, depuis un certain nombre d'années, grâce à la fondation de l'ENS, et à Jean-Philippe Bouchot et Elisabeth Bouchot, il y a un programme pour donner des financements aux jeunes femmes, donc rentrant en mathématiques, informatique et physique. Donc ça, c'est aussi un moyen de leur dire « Vous êtes les bienvenus et venez à l'ENS ».
Eh bien, c'est sur ces paroles pleines de bienveillance que nous allons clore cette émission. Merci Claudine de Policard d'être venue à la conversation scientifique pour nous parler des femmes en sciences. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et à la mise en onde, Souad Boukhorsa.